This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
J'ai eu une période où j'avais que des amis vraiment très fortunés qui me faisaient dépenser peut-être 30 ou 40 000 euros en une soirée. Et chacun notre tour, on faisait une soirée. Tiens, ce soir c'est toi, ce soir c'est moi.
On a déjà lu sur les réseaux sociaux des commentaires qui disaient que Thune ne tendait son micro qu'aux riches. Ceux qui nous écoutent savent que c'est faux, et je dirais même qu'il y en a finalement assez peu. La parole de Michael en est donc d'autant plus précieuse, surtout quand on aime les paradoxes. Il brasse beaucoup, beaucoup d'argent, mais selon ses propres mots, sa fortune n'est rien comparée à celle de sa famille. Il évolue dans un monde d'ultra riches, mais il est à leur service. Et puis vous allez l'entendre, il n'est pas un cliché près. Exilé fiscal, il n'aime pas l'impôt, il n'aime pas les pauvres, et même s'il ne vote pas, il est bien, mais alors bien, bien de droite. Et tout ça, il l'assume. Pour toutes ces raisons et pour les réactions que cet entretien ne manquera pas de susciter, on le remercie de sa confiance. Merci également à Pauline Abbé pour son aide sur cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Michael.
Bonjour.
Alors, je suis contente de te rencontrer, parce que toi, tu viens un peu du monde de la win et de l'argent.
Ouais.
Hein ?
Ouais, c'est ça.
Et tu dis ça avec un grand sourire. T'es à l'aise, toi, de parler d'argent, visiblement. Hein ?
Très. C'est la culture américaine. C'est, en France, on a du mal avec ça, mais aux États-Unis, en Asie ou n'importe où, gagner de l'argent, c'est pas un problème et c'est peut-être même mieux.
Pourquoi tu dis culture américaine ? T'es américain ?
J'ai vécu aux États-Unis pendant 4 ans.
Ouais, donc tu te sens américain ?
Je me sens très américain. Je vais aux États-Unis au moins 3 à 4 fois par an, pour le boulot bien sûr, et pour le kiff, mais je peux pas vivre sans y aller. La différence qu'il y a entre les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, si on roule avec une belle voiture, en France, on va se demander la question, mais qu'est-ce qu'il a pas payé comme impôt pour se payer cette voiture ? Alors qu'aux États-Unis, quand on roule avec une belle voiture, on dit, on va faire du business avec lui parce que je pourrais me payer la même un jour.
Ça, tu le sens vraiment ? C'est un peu cliché, ça.
Oui, mais c'est très vrai. C'est très, très vrai. J'ai même encore des histoires d'il n'y a pas très longtemps où j'ai une voiture de sport et les gens me disent à chaque fois « Vous n'avez pas honte de rouler dans une voiture comme ça ?» Et ça m'arrive même dans Paris.
Oui, mais c'est à cause de l'écologie.
Non, c'est à cause de la marque de la voiture.
Les gens te regardent un peu vénère, tu trouves ?
Ouais, bon, je me cache pas. Moi, j'ai une couleur très flashy sur ma voiture. C'est une voiture de sport d'une grande marque.
Et c'est quoi ? C'est une Ferrari ?
C'est une Corvette.
Une Corvette ? Ouais. Jaune ?
Non, bleu. Bleu électrique.
D'accord.
Bleu électrique, ça attire l'œil. Ouais, j'étais sur les Champs-Élysées. Je me suis garé pour faire une course. Et les gens m'ont dit, mais monsieur, on roule pas dans des voitures comme ça. Vous vous rendez qu'il y en a plein de gens ici qui prennent le métro.
Indécence. C'est marrant qu'on parte direct sur ce sujet de voiture flashy. Pourquoi le choix d'une voiture flashy, effectivement ? Pourquoi pas le choix du ce qu'on appelle aujourd'hui le Quiet Luxury ? Ça raconte quoi ?
Alors, que ce soit en France ou à Dubaï ou que je sois dans le monde quand je conduis une voiture, je choisis toujours une voiture dans laquelle j'avais envie de rouler quand j'étais petit. C'est-à-dire que j'ai choisi que des modèles que je regardais quand j'étais jeune. Donc, j'ai pas des voitures hyper récentes, mais c'est des voitures de sport entre 2005 et 2015. Et après, la couleur, c'est parce que je suis toujours aimé les couleurs flashy.
Donc, tu fais plaisir aux petits garçons.
Ouais.
Et il n'y a pas là-dedans une démarche un peu ostentatoire de dire « Regardez, j'ai réussi ».
Pas sur les voitures.
Pas sur les voitures, ailleurs.
Ouais, quand les réseaux sociaux, bien sûr.
Comment ça ?
Encore hier, j'étais à un spectacle. La photo Instagram que j'ai postée hier soir, c'était avec l'artiste qui faisait le spectacle en disant un nouveau pote, un nouveau client, des choses comme ça. Donc c'est vraiment c'est la mise en avant de la réussite sur les réseaux sociaux parce que c'est là aujourd'hui où tout le monde qu'on ne connaît pas va pour nous connaître.
Tu te la racontes un peu ?
Ça fait partie de la réussite personnelle quand on part d'un milieu où tout le monde dans une famille réussit. Que toi, tu te fais virer de 5 écoles, que tu redoubles 2 fois, tu te dis, bah finalement, j'y suis peut-être même mieux arrivé que certains. Ouais.
Il y a une fierté, enfin, il y a une vraie jouissance quoi, ouais. de la réussite et de l'argent que tu assumes complètement.
Je ne vais pas me cacher de réussir quand justement j'ai travaillé pour et qu'aujourd'hui je peux me permettre de mettre en avant le fait que certaines personnes ont la chance, parce que je pense que ma réussite fait en grande partie 60% de chance et 40% de travail. Je le dis toujours, il y a plus de chance que de travail. Je suis ce qu'on appelle bien né. On a fait une école plutôt haut de gamme, donc on s'est rencontrés en grande partie là-bas avec mes amis. Donc je suis bien né, mais la chance a fait le gros du travail et 40% c'est des nuits blanches.
Ok. Bon, on va rembobiner un peu du coup. Tu vas me dire justement où est-ce que tu es bien né, ton âge aussi, on n'en a pas parlé encore. Voilà. Qui es-tu ?
Alors, je m'appelle Mickaël, j'ai 37 ans, je viens d'une famille juive algérienne. En arrivant en France, mon grand-père, qui a eu une formation d'agriculteur en Algérie, il faisait partie d'une famille assez noble en Algérie, mais arrivé en France, une main devant, une main derrière. Et en se donnant les moyens, en prenant des cours du soir et en faisant ce qu'il faut, est devenu le président d'IBM Asie, Moyen-Orient et Afrique pendant 20 ans. Et il est arrivé à un niveau en travaillant, en étant honnête avec ses clients et avec ses fournisseurs et en utilisant l'humour. C'est quelqu'un qui m'a appris que l'humour faisait partie du business. Quand je suis revenu en France, j'ai monté ma conciergerie à l'aide de mon grand-père. Et l'échange qu'on avait, c'est « je monte une boîte avec toi ». Moi, je mets l'argent, toi, tu me donnes ton carnet d'adresse. Et en fait, j'ai appelé les copains de mon grand-père qui étaient plus contents de faire partie d'une société que mon grand-père avait que faire partie d'une conciergerie. Et c'est comme ça que j'ai monté mon truc.
Donc, avec un bon coup de main.
Un coup de main certain. Mmh. Parce qu'en fait, il faisait rien. À part m'avoir donné son carnet d'adresse, c'est moi qui prenais le téléphone et qui me cassais les fesses à appeler et faire du démarchage alors que j'ai sans horreur de ça.
C'était quoi le train de vie quand tu étais petit? Vous viviez où ?
Dans le 16e, on avait un appartement à côté du Parc des Princes. Et on avait un très grand appartement. Jusqu'à ce que j'aille à Juilly, donc au lycée, j'ai jamais fait un lit de ma vie. J'ai jamais vu ma mère cuisiner non plus. Donc non, on avait un train de vie très sympa. J'ai une famille d'entrepreneurs, c'est-à-dire que tout le monde dans la famille a sa propre boîte. Ma cousine a monté une société qui s'appelle Oh My Cream, qui est une des plus grosses boîtes de crème aujourd'hui. Mon père a un groupe qui s'appelle Botelux, qui gère plus de 70 marques dans la cosmétique et l'esthétique à travers le monde, plus de 60 000 points de vente. C'est que des gens qui fonctionnent très très bien. Et moi, je suis le petit dernier qui s'occupe que d'une clientèle de niche, tout ça. Mais j'ai les clients prestigieux que certains aimeraient avoir. Que ce soit des grands politiciens, des acteurs, des humoristes, des chanteurs, même des directeurs d'entreprise du CAC 40 qui m'appellent en me tutoyant, en me disant « viens dîner à la maison samedi soir » ou des choses comme ça. Je ne pense pas le mériter, mais ça fait partie de la fameuse chance que je te disais tout à l'heure. Le matin, quand je me réveille, je ne sais pas qui va m'appeler. C'est ça ma grande surprise, c'est que je peux avoir Jean-Claude Van Damme comme un politicien étranger qui va m'appeler pour me dire « j'ai besoin de toi » ou « j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça » et ça me rend dingue parce que j'ai rien fait comme étude à la base pour arriver à ce point-là, à part travailler mon réseau et la chance des rencontres. C'est pour bon, ça que la
ça caresse ton ego.
Ouais.
Petit aparté, mais il est encore bankable, Jean-Claude Van Damme.
Il est ultra bankable.
Ah ouais ?
Ah ouais, il a gagné tout au long de sa carrière, il a gagné peut-être 180, 190 millions en film. Il doit lui en rester en cash peut-être 70, 75. Et il en dépense aisément 250, voire 300 000 par mois, juste avec ses intérêts. Et donc, il ne touche pas à son cash de bac. C'est quelqu'un qui a des super placements. Vraiment des super placements, il est très intelligent, il investit dans des trucs très intelligents. Il est beaucoup plus intelligent et posé qu'on ne peut le croire.
Ça, j'en suis convaincu, tu prêches une convaincue.
C'est quelqu'un de très gentil, foncièrement très gentil. Il me fait des audios tout le temps pour juste me demander comment ça va et tout ça. Donc vraiment, c'est très cool.
Toi, t'as pas fait d'études, Mickaël ?
Non, j'ai un bac STT.
Le bac STT.
Ouais,
il revient de loin, j'ai le bac STT.
Voilà, exactement. Ouais. J'avais réussi à faire croire à ma mère que c'est sans trop de travail. J'avais besoin de découvrir le monde, de faire autre chose de ma vie, d'aller travailler. J'étais très attiré par l'argent étant jeune. C'est un problème que j'ai depuis petit, de toujours avoir la peur de manquer.
D'accord.
Et j'ai jamais rien manqué de rien. Attention, hein, j'ai une famille qui m'a toujours apporté ce dont j'avais besoin. Dès que je vois quelque chose, je suis un acheteur compulsif. C'est-à-dire, si je vois quelque chose qui me plaît, je vais aller l'acheter tout de suite pour me dire, je veux pas passer à côté, comme quand j'étais petit, à me dire, je l'achèterai plus tard.
Et ça te satisfait, ça, d'être comme ça? Tu te vois continuer comme ça pendant...
C'est à ma hauteur. Je gagne pas ce que font mes clients. J'essaye de ne pas avoir la mentalité de certains de mes clients. J'ai des clients qui sont multimilliardaires, dont un qui est multimilliardaire, qui lui brûle la vie par les deux bouts, mais sans jamais toucher à son capital de base. La première fois où je l'ai rencontré, il m'a dit, je peux dépenser 60 000 euros par jour sans jamais toucher à mon capital de base. Et il m'a dit, je te mets au défi, je te laisse ma carte de crédit pendant un mois, tu dépenseras pas 60 000 euros par jour. On a fait semblant, je l'ai pas fait, on a fait le test en imaginant qu'à chaque fois que je voyais quelque chose qui me plaisait, je l'achetais. Jamais de la vie, je touche 60 000 euros par jour, c'est impossible.
Et un client comme ça, tu sens que ça le comble
ce... Oui, lui, ouais. Lui, oui.
Lui, oui.
Alors moi, je suis extravagant, je suis assez ouvert et je parle très facilement. Mais alors lui, c'est encore pire, mais il investit tout le temps. Il faut tout le temps qu'il achète des entreprises. Au même titre que moi, je vais acheter des montres ou des voitures, lui, il achète des entreprises. C'est son délire. Il a acheté des entreprises en Afrique pour faire des graines bio pour les plantations françaises. Il a acheté une société de vape, il a acheté une société de benne à ordures, mais parce que dès qu'on lui propose un business, il regarde pas le business plan. Il se dit, celle-là, je l'ai pas.
C'est toi qui
sonne ? Oui, c'est moi.
Parce que tu m'as dit avant l'entretien, si le téléphone sonne, il faut que je puisse décrocher.
Oui, c'est des mauvaises expériences au début de ma boîte, où j'ai raté un appel de mes clients. Il faut savoir que donc, je dirige une conciergerie privée, que la conciergerie privée s'est aujourd'hui de plus en plus popularisée. On a environ en France un peu plus de 800 conciergeries privées. C'est-à-dire que si on rate un appel d'un client, il va appeler une autre conciergerie qui va réaliser la demande et on va perdre le client derrière parce qu'il va passer que par eux après.
Tu peux nous expliquer déjà ce que c'est exactement une conciergerie?
C'est l'assistant personnel qui dit jamais non. Aux États-Unis, j'étais client d'une conciergerie, ce qui est très démocratisé là-bas. Le but d'un concierge, c'est de réaliser chaque demande d'un client, quelle que soit la demande. On essaye de rester légal. Je dis bien, on essaye.
On va y venir.
Pas trop.
On va y venir un peu.
On essaye de rester légal. Le but, c'est de satisfaire un client qui n'a pas le temps, mais qui a les moyens. Et en revenant en France, je me suis abonné à des conciergeries. J'ai pas trouvé le service que je voulais. C'est-à-dire le côté friendly, le côté j'appelle mon concierge, salut, tu vas bien? Ouais, il me faudrait ça pour demain, est-ce que tu peux t'organiser ça? Non, en France, il fallait appeler, donnez-nous votre numéro client, donnez-vous le mot de passe. Alors très bien monsieur, je suis machin, je vous parle. Non, moi je voulais avoir un concierge, et j'ai pas trouvé ce service-là, donc j'ai décidé de le créer. La définition exacte, c'est un facilitateur. C'est-à-dire, on est là pour faire ce que le client ne peut pas, ne veut pas ou n'arrive pas à faire. Un restaurant complet, un 3 étoiles Michelin, on est vendredi, vous avez votre petite amie qui débarque en ville, vous voulez l'inviter au restaurant, mais c'est complet, vous y êtes pris au dernier moment, vous appelez votre concierge, il a une table dans ce restaurant. Il va faire les choses les plus crasseuses au monde pour pouvoir obtenir la table, c'est-à-dire il va prendre quelqu'un qui a réservé cette table, le mettre sur liste d'attente, et ensuite placer son client à la place.
Comment tu fais ça?
Ben, on a des très, 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 très bons contacts avec les gens qui travaillent dans les restos. Ils sont prêts à faire des sacrifices parce qu'ils savent que nos clients sont des clients spécifiques qui ont de l'argent et donc vont dépenser plus d'argent qu'un client lambda qui a réservé il y a 6 mois pour venir dans ce restaurant-là pour découvrir la gastronomie française.
Ce que tu racontes, c'est que tu es le point de contact de ces clients. Tout passe par toi.
C'est exactement ça. Nous, on se compare à un sablier. En fait, on a la partie du dessus qui est la partie des clients. Ça passe par nous et nous, on a les fournisseurs derrière. On a chacun nos spécificités. Il y a mon associé qui s'occupe de toute la partie football, dont j'ai horreur. Les footballeurs ne sont pas une clientèle que j'apprécie gérer. Ils sont très complexes, ils sont jeunes dans leur tête et ils sont nouveaux riches. Et les nouveaux riches et les riches, c'est deux personnes totalement différentes. Et on a une personne qui s'occupe de la mode, on a une personne qui s'occupe de l'immobilier, on a une personne qui s'occupe des voyages, on a une personne... Et on a chacun notre clientèle particulière, c'est-à-dire ceux avec qui on a des affinités. C'est-à-dire que moi, mes clients, je connais leur nom, je connais leur prénom, je connais le nom de leurs enfants, de leurs chiens, de leurs femmes, de leurs maîtresses, ils en ont des... Je connais de leur vie de A à Z, puisque plus j'ai de détails, plus je peux les servir. Et plus je suis proche d'eux, en termes d'amis, plus je peux les conseiller.
Tu considères que ce sont tes amis ?
On se considère comme même, pour certains, de la famille, c'est-à-dire que je fais partie, je suis invité au mariage, je suis invité aux naissances, je suis invité à, j'ai même été invité à une baby shower, alors que...
De qui ?
Bah, je peux pas, c'est un joueur de foot très célèbre.
Et c'est des Français ou c'est aussi
non,
des Américains ?
Non, c'est un Brésilien.
Ouais, c'est mondial, international.
International.
Et le jour où tu ne les serviras plus, tu penses que tu seras toujours leur ami ou pas ?
Ouais.
Ouais. T'as combien de clients aujourd'hui ?
Alors, en clients fixes, c'est-à-dire des clients qui nous font plus que, on appelle des clients fixes, plus que 10 demandes par an. Ça peut être une simple demande de réservation de chauffeur, mais ça compte comme une demande. En clients fixes, on en a 514. Après, en clients, ce qu'on appelle mobiles, c'est des gens qui ne nous appellent que quand ils ont vraiment besoin. Ils peuvent ne pas nous appeler pendant un an et nous rappeler derrière. On est un peu plus de 2000. Ouais. Money, money.
Dans ce boulot, toi, t'es corvéable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Ouais. C'est-à-dire que même quand je rencontre une fille et que je commence à sortir avec elle, je lui annonce tout de suite que si on est en train de faire un gros câlin énergique, si c'est mon téléphone sonne, je m'arrête.
Et ?
Bah, elles savent le pourquoi du parce que je le fais, donc ça passe.
Ça arrive ?
Oui,
bah oui, évidemment.
Oui, ah bah ouais. J'ai pas de nuit, j'ai pas de vie. Les clients, où qu'ils soient dans le monde, mes clients à moi, moi j'en gère à peu près 40 et leur famille. Les 40 clients que j'ai, il y en a qui sont à Hong Kong, il y en a qui sont à New York, il y en a un au Fidji qui vit là-bas, qui gère un hôtel. Quelle que soit l'heure pour lui, il m'appelle, il sait que mon téléphone, mon WhatsApp est ouvert et il peut m'appeler à n'importe quel moment pour ça.
Et t'as pas l'impression que ça flingue ta santé, ça ?
Non, ça va. Non. Je...
Non, c'est une question...
Je suis encore surpoids, mais... Ouais. Non, ça flingue pas ma santé, parce que j'ai jamais beaucoup dormi, de manière générale. Et en plus de ça, quand je dors pas beaucoup, mais que je dors, c'est-à-dire que je me rendors très très vite derrière. Je regarde l'urgence de la demande. Mm. Si c'est pas pour tout de suite maintenant, comme certaines fois où ça peut arriver, je
tu peux te rendormir.
Ouais.
Oui, c'est un atout, c'est obligatoire dans ce métier.
Bah, l'obligation, c'est la dévotion. C'est ce qui est écrit sur notre logo, d'ailleurs. Dévotion, discrétion. On est discret par rapport à certains de nos clients. On a des clients qui font notre pub. On a des qui font, quand on est avec eux, ils font des photos Instagram. Merci Élisée Conciergerie, merci Mika, merci tout ça. Là, on peut parler d'eux. On ne parle pas de ceux qui préfèrent rester discrets sur leurs demandes et sur leur vie privée.
Tu gagnes combien par mois ?
Ça dépend. Ça dépend des demandes, ça dépend des périodes. Par exemple, là, le mois d'août, qui est le mois pourri, c'est pour ça que j'ai plusieurs activités. En conciergerie pure et dure, au mois d'août, je ne dépasse pas les 5000 euros.
Ah oui ?
Non.
Oh bah, je suis super déçue.
Moi aussi. Parlons à mes clients.
Et ton meilleur mois ?
Avril. C'est parce que c'est le mois de Roland-Garros, du Grand Prix de Monaco, du Festival de Cannes, la préparation des vacances. Donc, il y a certains mois d'avril où je tourne plus aux alentours des 40-45.
Et tes clients, ils payent ce service par abonnement, par forfait ?
Non, on ne fait plus d'abonnement. On le faisait au tout début, quand on a lancé la conciergerie en 2009. Il y a tellement de conciergeries que je ne peux plus me permettre de faire payer un abonnement. On fonctionne à la fidélisation, c'est-à-dire on sait que la manière dont sont traités nos clients et la manière dont on traite la demande fera que le client reviendra.
Et combien est-ce qu'il paye le client pour un service, du coup ?
Ça dépend. On a une grille sur le contrat qu'ils vont signer sur la confidentialité, qui dit que de 0 à 10 000, on prend 10 %. Pardon, 0 à 10 000, on prend 10 %. De 10 à 25, on prend 5 %. Et au-dessus de 25, on prend 3 %.
Mais, de 0 à 10 000, c'est-à-dire 0 à 10 000, c'est réserver un resto.
Voilà, de 0 à 10 000. Alors, le resto, c'est un peu la particularité. On ne peut pas prendre d'argent puisque ça ne coûte rien à nous de le faire et ça ne coûte rien aux clients de le faire aussi. Ils passent par nous pour gagner du temps. Mais du coup, ce qu'on fait, c'est que pour une étoile Michelin, c'est 25 euros. Deux étoiles Michelin, c'est 50. Et trois étoiles, c'est 100.
C'est pas grand-chose, finalement.
Non, c'est pas grand-chose, mais il faut qu'on soit cohérent avec le prix de l'addition aussi.
Mais alors, c'est quoi de 0 à 10 000, t'as quoi là-dedans ?
Bah, ça va être ce que tu peux m'organiser. Je veux louer une voiture pendant mes vacances ou organise-moi une journée à Disney ou des choses comme ça. Ça va être vraiment les demandes qui vont sur l'addition totale de 0 à 10 000 euros. Quel que soit le fournisseur, quelle que soit la demande, tant que c'est entre 0 et 10 000, on prend 10 %.
Donc, si tu loues une voiture pendant les vacances à ton client, tu t'occupes de tout, tu avances les frais de location de la voiture et tu le charges avec...
Alors oui, non. Oui, parce que c'est comme ça. Si jamais on est à moins de 24 heures de l'événement ou de la location de voiture, on va avancer les frais puisque le temps qu'il nous fasse le virement, tout ça. Mais j'ai eu une mauvaise histoire qui m'a donné la leçon pour le reste de ma vie professionnelle, on va dire, d'un client qui nous a demandé un jet en dernière minute pour aller à tel endroit. Il y en avait pour 40 000 euros. Je dis, OK, pas de souci, tu me fais le virement. Il m'a envoyé l'ordre de virement, mais c'était un faux. Et en fait, il a fallu payer le jet parce qu'il a quand même fait le vol. Donc, j'ai perdu 40 000 euros, ouais.
T'as une autre activité ?
Ouais, j'en ai deux autres. Je fais partie d'une compagnie de jet privé qui s'appelle Arto Aviation, qui est une compagnie de jet privé qui est celle qui a la plus grosse évolution mondiale chaque année, qui a reçu le prix de Deloitte plusieurs fois. C'est une société qui est basée à Paris, qui a des bureaux à Paris, Nice, Aix et Genève. On s'occupe du transport de personnes, mais aussi du cargo, des choses comme ça. Et on ne fait que des avions complets, c'est-à-dire qu'on ne vend pas de sièges comme certaines compagnies de jet le font. Nous, on vend la location d'un avion complet à chaque fois.
Donc, encore une fois, chez les très, très, très riches.
Alors non, parce qu'il ne faut pas croire que c'est très, 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 très cher.
Ah.
Un Paris-Nice aller-retour sur une journée, un directeur d'entreprise va payer ça pour 4 personnes moins de 4 000 euros. Donc, ça peut être un très bon prix. C'est-à-dire qu'on est pressé, on veut le faire. Voilà, un aller-retour sur un Citation Mustang, c'est un petit avion 4 places. Alors, c'est pas hyper confort, faut pas croire que tous les jets... c'est plus confortable de voler en première que de voler dans un jet privé, en fonction des jets. Mais c'est beaucoup de jets sont petits, exigus. Moi, j'ai une corpulence assez certaine. Sur des petits jets très fins, j'ai une fesse qui penche à droite quand même. Hein. Donc, voilà.
Donc, vaut mieux voyager en première, c'est intéressant. Mais
ça coûte moins cher.
Tout l'intérêt du jet, c'est de ne pas attendre à l'aéroport.
Alors, je vais te donner l'exemple parce que, par exemple, pour Jean-Claude, je peux en parler, il a fait la pub là-dessus. Jean-Claude prend des jets privés et non pas des avions en première parce qu'il a un petit chien qu'il ne veut pas mettre en soute.
Ah.
Donc, il garde son chien. Donc, il paye des vols à 180-200 000 $ parce qu'il préfère voler avec son chien avec lui.
OK.
Au lieu de payer, je sais pas, ça lui coûterait peut-être 25-30 000 $ pour faire certains vols, mais il va payer 10 fois le prix juste pour pouvoir avoir son chien avec lui.
Et ton autre activité ?
Je suis formateur dans les écoles de commerce. Donc j'interviens dans plusieurs dizaines de... Enfin, même 20 écoles de commerce à travers la France, à travers le monde même, puisqu'aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne aussi, pour de la formation pour les étudiants sur la gestion, création d'entreprise et fidélisation client par l'humain. Arrêter de faire confiance qu'au CRM.
Les blagues, l'humour.
Ouais.
Tu leur apprends ça ?
C'est ce que je dis, je fais des one-man show. Et en fait, je donne cours à la façon où j'aurais aimé qu'on tienne mon attention. C'est-à-dire... On se vanne, on s'échange, on me tutoie, j'ai aucun problème de différence. Je pense que le respect se fait juste à travers l'expérience. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'élèves en formation continue qui sont plus âgés que moi. Les notes, c'est un concept que je n'aime pas. Quelqu'un va avoir une super expérience et à la fin va avoir un petit poil sur le coin de son assiette et va mettre trois étoiles ou trois boules sur TripAdvisor sous prétexte qu'il y a eu ça, alors qu'il a fait le meilleur repas de sa vie. Donc du coup, je fais pas confiance aux notes, donc je dis tout de suite aux enfants, aux étudiants, que je mets que des bonnes notes. Donc c'est pour être sûr qu'ils suivent pour les bonnes raisons et pas parce qu'ils doivent.
Donc toutes ces activités mises bout à bout, ça te fait combien par mois ?
La compagnie de jet privé, on est aux alentours des 24 millions.
Par an ?
La compagnie de jet, ouais. 24 millions par an. La conciergerie privée, on est aux alentours des 2,5. Et MDCC, enfin la société de conseil, je crois que je fais un peu plus de 400 000. Ouais. Donc c'est pas un très gros groupe, je suis pas quelqu'un de ma famille. Comme je dis, voilà, je suis plus petit de ma famille, donc voilà. Je dirais que le maximum que je peux gagner dans un mois, là, c'était l'année dernière justement, c'était en avril 2022. C'est le plus gros mois que j'ai fait de ma vie, j'ai gagné près de 200 000 euros.
Alors c'est là que tu as acheté ta voiture bleue électrique ?
Non, pas du tout. Non, je l'ai acheté en décembre de l'année dernière. Mais... Non, pas du tout. Il faut être d'accord avec le fait que j'ai gagné 200 000 euros, mais je ne les ai pas gagnés en France, puisque je suis domicilié fiscalement à l'étranger de façon totalement légale. J'habite plus de 6 mois et un jour à l'étranger.
Qu'est-ce qui t'a fait partir ?
Un contrôle fiscal.
Ah.
C'est un ça, une piqûre de rappel qui m'a fait me rappeler que en France, revendre une société, quand on fait une grosse marge très rapidement, la France se sert allègrement sur sur les bénéfices et sur la plus-value de la société. Et ça m'a stoppé net dans mon évolution parce que ça m'a fait repartir quasiment à zéro alors que j'étais millionnaire, ni plus ni moins. Parce que il faut déclarer chaque centime, chaque façon de faire. Et l'État adore les super riches. Je discute beaucoup avec les super riches et je ne connais pas un seul super riche français qui n'a pas un compte ailleurs. Pour la seule et unique raison, c'est que la France adore les super riches parce que ça nourrit les super pauvres. C'est une phrase qui pique, mais c'est vrai.
Sans parler des super pauvres, mais juste en parlant de la classe moyenne, c'est aussi cette classe moyenne qui est la force vive qui permet aux super riches d'être super riches.
C'est exactement ça. Je parle jamais de la classe moyenne parce que la classe moyenne, c'est la classe bâtarde, en fait. Je fais une intervention dans les écoles sur la richesse. Riche en France, c'est 1% de la population qui gagne plus de 7 500 € par mois. Quelqu'un de pauvre, c'est quelqu'un qui est en France considéré au RSA. Je connais des gens au RSA qui, toutes les aides mis bout à bout, gagnent plus qu'un super comptable de ma société, par exemple. Le comptable de ma société.
Ah, ça, c'est la mythologie du pauvre qu'on aime beaucoup sortir, justement, aussi en France. Le pauvre, s'il est pauvre, c'est de sa faute.
J'ai eu une relation avec une jeune demoiselle qui était au RSA. 4 enfants, un enfant handicapé. Je n'enlève pas ça à sa difficulté de vie de tous les jours. Qui gagnait, toute aide confondue, près de 3 000 € par mois. Net. Et je voyais que pendant la journée, elle avait largement le temps d'avoir une activité à mi-temps ou des choses comme ça, qui cumulerait un petit peu plus, qui donnerait sa valeur ajoutée à ce qu'elle fait, à la société. Mais non, elle me disait, pourquoi j'irais me lever le matin? Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est des risques, beaucoup de risques. Il y en a certains qui mettent toutes leurs économies, qui mettent leur héritage, leur maison en garantie pour pouvoir faire en sorte d'apporter quelque chose à la société, une valeur ajoutée, répondre à un service, à une demande, à un besoin. Et il y a ceux qui ne veulent pas répondre, qui profitent de ces services et des aides de ces autres sociétés, des gens qui sont prêts à mettre des couilles sur la table. J'ai un employé dont je me suis séparé juste avant le Covid, qui m'a dit je veux faire comme ça. J'ai dit non, tu fais pas comme ça, c'est moi qui ai monté cette boîte là, c'est moi qui décide. Oui, mais si on fait comme ça, c'est mieux. J'ai étudié bien sûr ce qu'il me disait, mais pour moi c'était pas la bonne façon, et il l'a quand même fait. Et donc je l'ai renvoyé en lui disant, souviens-toi qu'à la fin du mois, si la boîte ferme, c'est moi qui tombe, pas toi, mais c'est moi qui fais aussi ton chèque à la fin du mois. Si c'est moi qui me plante, je m'en voudrais à moi-même. Pas à toi.
Quand tu dis que tu as eu ce contrôle fiscal et qu'on taxe, selon toi, beaucoup trop les nouveaux riches, enfin les riches, c'était à quelle hauteur ce contrôle fiscal, par exemple?
J'ai été redressé sur 6 millions d'euros.
Ouais.
J'ai pris 6 millions d'euros de redressement sur les 8 que j'avais, que j'ai gagné.
Il t'en restait 2?
Même pas, parce que j'ai eu en plus de ça une majoration de 10% parce que j'ai pas fait les choses correctement d'après eux.
Mais t'avais pas un bon comptable?
Ma mère est expert comptable.
Ouais.
Voilà.
Et ta mère t'avait pas prévenu?
Si. Mais j'ai pas écouté. J'avais 25 ans, j'étais fou, j'étais tout feu, tout flamme. J'avais un gros chèque qui me tombait dessus. Je voulais absolument avoir un appart avec mon meilleur ami. Je voulais m'acheter une Ferrari. J'ai payé une assurance de Ferrari 15 fois le prix, juste pour pouvoir avoir une Ferrari. C'était complètement démentiel à cette époque-là. Et là, à cette époque-là, c'était vraiment le nouveau riche qui veut se la péter, qui veut montrer qu'il a réussi. Maintenant, je regarderais le Michael de 25 ans et je lui dirais, OK, t'as cet argent-là, investis-le, fais des choses intelligentes avec. Mais même en investissant, je pourrais vous montrer, j'ai un texto d'un client, il vient de vendre sa boîte pour 1 125 millions. 1 125 millions. C'est une somme que personne touchera a priori. Sur 1 125 millions, il lui reste 145 millions dans sa poche. Il est en train d'investir sur plein de trucs pour pouvoir récupérer de l'argent. Mais il sait très bien qu'une partie de cet argent-là, encore, va aller à l'État, puisque c'est de l'investissement sur lequel il va gagner de l'argent. Il va perdre de l'argent, j'appelle ça perdre de l'argent, pour ça. Et sur 1 125 millions, en donner, puisqu'ils sont deux associés, en donner quasiment 800 millions à l'État, sur la plus-value, sur les taxes, sur les impôts sur le revenu, et si et ça, je veux bien payer des impôts. Aux États-Unis, l'imposition maximum, c'est combien? 22%. 71 en France.
Mais garder 200 millions, c'est suffisant aussi pour...
Ah, mais c'est génial, hein. 200 millions, ça fait gagner quasiment 45 000 euros par mois sans... Non, 45 000 euros, oui. 45 000 euros par jour, pardon. 200 millions, c'est 45 000 euros par
tu
jour.
Tu calcules vite.
Ouais, non, parce que j'ai mes habitudes. Là, il y avait un euro million de 130 millions. Mon fils me dit, papa, je veux gagner 130 millions. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas en faire? Il me dit, ah, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Je lui dis, ok, il t'en reste 110, qu'est-ce que tu fais après?
Bah, je te repose la question. Qu'est-ce que tu fais au-delà de 200 millions? Pourquoi ressentir cette injustice du taxage alors que c'est largement suffisant pour toute une vie?
Si j'ai 200 millions, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais les dépenser. Si je les dépense...
Pas forcément. Tu peux les placer. Tu peux les investir.
On peut les placer, on peut les investir dans les sociétés.
T'as de quoi vivre toute ta vie extrêmement confortablement et faire également vivre tes enfants de façon confortable, ouais. Tes petits-enfants, etc.
Donc, placement, c'est quoi? C'est des structures, c'est placé dans... Donc, je vais faire aussi fonctionner ces structures qui vont payer les salaires des employés, qui vont faire tout ça. Donc, finalement, je fais fonctionner tout le monde. J'ai pas besoin d'en donner plus. Si tu places 200 millions sur, je dis pas une bêtise, sur un placement d'une société parce que tu crois à cette société-là, tes 200 millions, ils sont allés quelque part. Ils servent à faire fonctionner une structure qui elle-même va faire payer ses employés. Donc, finalement, tes 200 millions, ils ont servi à quelqu'un. Au lieu de les donner à l'État, si on prenait que 22%, ça veut dire que sur 1 milliard, faisons facile, ça fait 220 millions. 220 millions que je donne à l'État, ça me fait plaisir. Je pense que je paye ma part quand je fais ça. Il m'en reste effectivement 780 millions. Et 780 millions, je les investis dans des sociétés XY qui vont me rapporter de l'argent, même si j'en ai pas besoin. Je crée un patrimoine pour ma famille, pour mes amis, pour tout ce que je veux. Les 780 millions, ils font fonctionner ces structures-là, ces entreprises-là, qui elles-mêmes fournissent du bien aux autres. Sauf que les 220 millions que j'ai donnés à l'État, où est-ce qu'ils sont partis? Ils sont partis dans les aides sociales, ils sont partis dans les gens qui sont au RSA et qui font partie de celles que je vous ai dit tout à l'heure, enfin, je t'ai dit tout à l'heure, pardon, à 3000 euros vissés sur le cul sur son canapé.
Alors, oui, mais ça, tu te rends bien compte que c'est un discours qui est assez provocateur et peut-être un petit peu éculé maintenant. C'est-à-dire que cet argent, il part pas uniquement pour les gens au RSA.
Pourquoi les États-Unis ont un impôt à 22% alors qu'ils sont beaucoup plus que nous et que le salaire moyen américain est plus élevé que le nôtre? Parce qu'aux États-Unis, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ».
Oui, en attendant, il y a un paquet de gens qui vivent dans des mobil-homes, des vieux qui n'arrivent plus à se loger. Il n'y a pas de sécurité sociale.
Exactement. Il n'y a pas de sécurité sociale. Il y a des problèmes de caisse de retraite. Il y a tout ça. Parce qu'en fait, ils incitent les gens, ils obligent les gens à dire « Tu veux travailler pour ta retraite ? Fais-le. » Alors attention, il y a des inégalités de travail. Et effectivement, la caissière qui travaille chez Walmart, elle va pas devenir présidente de Apple. Quand je regardais encore hier avec mon beau-frère les salaires des présidents de société, le salaire du président de McDo France, parce qu'on était chez McDo et on réfléchissait, il touche 18 millions d'euros par an. On est entièrement d'accord que personne n'a besoin de 18 millions d'euros par an de salaire. Mais qu'est-ce qu'il fait de ces 18 millions ? Il paye des impôts, il paye des taxes, il donne de l'argent à ses enfants pour leurs études, il donne certainement de l'argent à ses amis ou à sa famille ou des choses comme ça. Moi, je vois donc Éric Cormier, puisque c'est lui le milliardaire dont on parle. Éric, il a la main sur le cœur. Je peux lui passer un coup de téléphone, lui dire j'ai besoin de 100 000 euros parce que je suis sur un projet. Il va me demander quel projet et il va me faire le virement instantanément.
Les services entre riches, ça existe de la même façon que le coup de main entre pauvres. Mmh. C'est pas parce qu'on est riche qu'on a davantage la main sur le cœur que si on a moins d'argent.
Mais quand on est riche, on peut aider plus de personnes à hauteur de ce qu'on veut, en fait. C'est ça le truc. C'est on distribue à tout le monde. Là, on peut faire ce qu'on veut à qui on veut. Donc tout ça pour dire que j'ai besoin de donner de l'argent à la France. Je le comprends. Mais donner plus que ce que moi je vais gagner, ça, je le comprends pas. Quand je vois des joueurs de foot avec qui je discute, qui gagnent énormément d'argent, ils courent que après un ballon. Mais ils courent après un ballon, ça déclenche des droits télé, ça déclenche des entrées dans les stades, ça fait travailler les stadiers, ça fait travailler les entreprises qui créent les maillots. Alors, elles sont pas en France, mais ça les crée quand même. Ça fait fonctionner toute une économie, ces gens-là. Mais quand ils gagnent plus d'un million d'euros, on lui en prend 710 000. Ça, c'est ça où j'ai un peu de mal. Donc, au final, oui, on a besoin des aides. J'ai pas de problème là-dessus. Mais on a aussi besoin que les gens gardent leur argent pour continuer à faire tourner l'économie que eux veulent.
Je comprends bien ton positionnement, qui est assez très ancré à droite. Hein.
Ouais.
Ouais.
Alors, attention, je vote pas, j'ai même pas de carte d'électeur. Je suis parti ailleurs, vous faites comme vous voulez. Si demain ça s'arrête, je m'arrête aussi.
Mais du coup, tu vis six mois et un jour à Dubaï.
Voilà.
Ouais.
À Dubaï ou ailleurs.
Ça te plaît?
Non, j'ai horreur de Dubaï. quand je suis là-bas, je suis chez moi, je bouge pas, je reste dans ma maison, je vais faire des jeux vidéo ou des parcs d'attractions, c'est ma passion. J'ai une maison à Bali, enfin à côté de Bali, et je préfère être là-bas plutôt qu'à Dubaï. C'est plus calme, tranquille. Je suis parti de Paris, je suis allé m'installer dans le sud-ouest de la France parce que j'avais besoin d'être au calme, au vert et tout ça. Je suis pas quelqu'un de la ville. Je suis pas quelqu'un qui speed. J'ai mon grand-père qui dit cette phrase qui est géniale, c'est que le meilleur moyen d'être riche, c'est de le rester. Donc, les clients savent que sur un vol à 100 000 euros, je vais pas leur prendre 10 000 euros de commission. Ce serait ridicule. Ils iraient n'importe où ailleurs, ils le paieraient 102, 103, 104. Donc, je leur dis, voilà, nous, on t'a fourni un service. On est à 3%, ça fait 103 000, ça te convient? Oui, ça te convient. Bonne journée, merci, au revoir. Si jamais on a besoin de plus, pour X ou Y raison, ça nous a pris plus de temps ou quoi que ce soit, eh ben, à ce moment-là, on leur dit, ça nous a pris vraiment beaucoup plus de temps que normal. Au lieu de prendre 3, on va peut-être prendre 5%. Donc, c'est pas un paiement à la gueule, mais on explique au client le pourquoi du parce que. Très bon exemple. On a Tony Parker qui prend un jet pour nous. Il nous dit, voilà, je veux décoller de Deauville. À Deauville, une tempête. L'avion peut pas voler. C'est pas possible, la piste est trop courte, il faudrait qu'elle soit plus longue, tout ça. Il a payé l'avion. On lui dit, la tempête passe, à 20h tu peux décoller. Ah ben non, il faut que je sois à 16h à Paris pour faire mon interview. Bon, ben on va te mettre une voiture à disposition et on va t'emmener en voiture. Mais les 14 000 euros du vol, il les a perdus. Il les a payés, l'avion est là, prêt à voler, on lui propose une solution. Il ne veut pas prendre l'avion, les 14 000 euros sont payés. Donc là, à ce moment-là, il faut expliquer à quelqu'un comment tu vas t'asseoir sur 14 000 euros.
Et comment tu l'expliques ?
Bah, en toute honnêteté. Il a fait la gueule, il n'était pas content, il m'a dit « Mika, c'est déconnant, faudra que tu... » Donc nous, on essaie de faire des efforts sur les prochaines commissions pour essayer de lui retrouver un peu sa stabilité financière du vol qu'il a perdu. Mais en soi, on n'y peut rien. On va se prendre un virage, c'est sûr.
Tu pars en vacances ?
Ouais, avec mon téléphone, avec mes téléphones.
Avec tes téléphones, prêt à sauter dans un avion si jamais il y a une urgence ?
Ouais.
Ouais.
Ouais,
avec les femmes. Est-ce que c'est un facilitateur, le fait de connaître toutes ces stars, de gagner beaucoup d'argent ?
Alors,
ou est-ce que ce rythme de vie-là, il est ingérable ?
Je vais être honnête. Il y a quelques années, je trouvais que c'était un facilitateur parce que je mettais ça en avant. Je disais, ouais, je connais un tel. Leonardo DiCaprio, j'ai fait la semaine avec lui, j'ai fait ci, j'ai fait ça.
T'as voilà. Leonardo DiCaprio en client ?
Ouais.
C'est classe.
Ouais, Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Angelina Jolie, c'est des clients qu'on a en jet régulièrement. Mais c'est pas ça, c'est une fois qu'on fait ça, c'est cool, mais on tombe pas face à la personne qui s'intéresse à nous, qui s'intéresse plus au job, à l'argent, ces choses-là. Donc maintenant, j'ai trouvé ma technique, je dis juste que je suis intervenant dans les écoles de commerce, jusqu'à ce que la nana me Google et qu'elle tombe sur 2-3 trucs que j'ai pu faire, mais je dis que je suis dans une école de commerce, que j'interviens dans les écoles de commerce. Et après, si je vois que la relation part d'un côté sérieux, effectivement, je vais commencer à dire la vérité.
Mais t'as eu des déconvenues, visiblement.
Ah oui, plein.
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 Ouais.
La demoiselle qui était au RSA, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'au tout début, en fait, elle m'avait effectivement googlé. Elle m'avait vu sur Instagram avec 2-3 célébrités que j'ai en photo. Elle m'a dit « Ah, tu connais un tel, mais ça ne m'intéresse pas, c'est tout ça. » Et après, ça a été « Ah bah tiens, avec les enfants, on aimerait bien partir là en vacances, mais on n'a pas les moyens. Tu penses que tu pourrais nous offrir ce genre de vacances ?» Ou des choses comme ça. Ouais,
Et tu le fais, ça ?
Ça dépend comment ça se passe avec la demoiselle.
Aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que ton travail, c'est toute ta vie ?
Tout tourne autour de mon travail. Je fais passer mon travail avant tout le reste. Je demande à mes étudiants régulièrement de choisir un ordre de préférence entre travail, argent et famille. Parce que l'argent ne vient pas forcément avec un travail qui nous plaît. Il y a des gens qui font pas le travail qu'ils veulent, mais qui savent qu'ils gagnent beaucoup d'argent. On a les gens qui travaillent par passion. L'exemple de mon beau-frère, c'est un artisan d'horreur. Il adore son travail, mais il sait qu'il sera jamais millionnaire. Et il y a ceux qui vont mettre en avant la famille, c'est-à-dire que demain matin, on vous propose un travail très bien rémunéré en Australie. Pendant un an, est-ce que vous laissez votre famille ? Et ceux qui vont choisir la famille sont ceux qui n'ont pas travail et argent en premier.
Et toi, tu as choisi quoi ?
Moi, c'est argent, travail, famille.
D'accord. Et donc, ton fils, tu le vois... Un week-end sur deux.
Ce qui me permet de beaucoup voyager.
On va parler un peu de tes clients dans la conciergerie, parce que on va pas se priver d'un petit peu de crousti fondant quand même. Le mythe du concierge qui trouve des prostituées, c'est vrai ou pas ?
Alors, oui, c'est vrai, mais non, c'est pas vrai dans le sens où c'est complètement illégal, puisque si on touchait de l'argent dessus, c'est du proxénétisme. Donc, on fait que mettre en relation le client avec un service qu'on connaît. C'est-à-dire que nous, on met le service, la société existe, elle est basée à Londres, elle est très bien. Le client se débrouille avec eux et nous, on reste en... On a fait juste une intermédiation, c'est tout.
C'est sympa, c'est le coup de main.
C'est... La prostitution, c'est le plus vieux métier du monde, on ne va pas se cacher, il y en a partout. Il n'y a pas un seul hôtel de Paris qui ne l'accepte pas non plus. Sinon, ils savent qu'ils perdraient leurs clients aussi. Donc, si on dit, bah non, vous ne pouvez pas avoir ce genre de service dans l'hôtel, bah, le client il va dire, c'est pas grave, les 15 nuits que je viens de prendre à 10 000 euros la nuit, bah, je vais aller les passer ailleurs. C'est un secret de polichinelle.
Les choses les plus dingues qu'on t'ait demandé ?
Une demande en mariage à dos d'éléphant sur le champ de Mars. On a eu un anniversaire sous l'eau pendant une plongée. On a fait, et là, récemment, on en a eu une ouf aussi. On a eu une privatisation de la galerie des glaces du château de Versailles pour un dîner d'anniversaire d'une gamine de 15 ans.
L'âge de tes clients, ça va de combien à combien ?
La plus jeune a 21 ans.
Ouais.
C'est une héritière. Qui malheureusement a perdu ses deux parents en même temps, qui dirige un très gros cabinet d'avocats anglais et qui a hérité d'une très grosse somme. Et le plus vieux, ben, j'ai envie de dire, c'est mon grand-père, 92 ans.
Il utilise tes services ?
Ah, régulièrement.
Est-ce que tu vois une différence entre les demandes des vieux et des jeunes ?
Oui.
C'est quoi ?
Ben, les jeunes vont être plus sur effectivement le côté show-off. Alors je dis toujours ça parce qu'on a des clients, on a un décollage à 10h pour un jet de... 9h30 à 10h, ils sont sur le tarmac en train de se prendre en photo avec l'avion dans des positions différentes. On a des chanteurs qui font ça, ils font croire que c'est leur propre avion parce qu'on fait personnaliser les avions, bien sûr, en fonction des périodes. Ouais, on va mettre notre logo, comme ça, ça fait mon avion. Ah bah oui, bah non, bah c'est pas le tien, Jackie. Les personnes âgées vont plus réfléchir à l'utilisation, alors que les nouveaux jeunes ou les riches ou les jeunes riches vont penser à la façon... de se mettre en avant sur les réseaux parce qu'ils savent que ça peut faire des ronds en plus à la fin du mois s'ils récupèrent beaucoup de followers parce qu'ils montrent qu'ils sont dans un jet, qu'ils ont une vie de riche ou des choses comme ça. Et le nombre de followers augmentant, bah les revenus augmentent aussi.
J'imagine que tu as dans ta clientèle des nouveaux riches et aussi des héritiers.
Ouais.
Est-ce que tu les repères immédiatement ?
Les nouveaux riches, on les repère plutôt vite parce que c'est ceux qui vont mettre en avant le service qu'on leur a fourni. Tout de suite. C'est-à-dire, ah voilà, je suis au premier rang de tel concert, je suis en loge avec machin, parce que c'est le genre de service qu'on peut nous demander. La dernière fois, on a une cliente, je ne vais pas citer son nom, mais qui nous demande une table dans un très grand restaurant, un 3 étoiles Michelin à Paris. Elle s'est fait renvoyer du restaurant parce qu'elle parlait trop fort en faisant. Elle a fait un live pendant le dîner, en parlant très fort, alors qu'il y avait d'autres gens dans le restaurant. Elle payait l'addition, hein, c'était pas le problème. Mais là, elle était là, alors les followers, voilà ce que je mange, vous voyez le temps d'attente du restaurant, c'est à peu près 25 minutes, vous allez kiffer si vous venez. Ouais, mais à côté de ça, il y a des directeurs d'entreprise qui viennent dîner, ils n'en ont rien à faire de savoir ce que tu fais. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, moi, je suis mal vu du restaurant, parce que j'envoie ce genre de client. Même si c'est une cliente qui paye, qui va s'amuser, qui va me faire nourrir ses quatre copines, après, moi, je suis mal vu, il faut que je me rattrape.
Donc les nouveaux riches sont plus mal élevés ?
Ils sont pas mal élevés, ils sont mal éduqués. Le mal éduqué, c'est celui qui sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, il oublie les valeurs que ses parents ont essayé de lui inculquer. Les joueurs de foot, très bon exemple. On loue des villas à plusieurs centaines de milliers d'euros par semaine. La une, 320 000 euros par la semaine pendant cet été. C'est une villa de dingue, magnifique, avec tous les services possibles et imaginables. Une caution à 45 000 euros. Il y en a eu pour plus de 115 000 euros de réparation dans la maison, au bout d'une semaine.
Qu'est-ce qu'ils avaient fait ?
Ils ont défoncé des œuvres d'art, ils ont joué au foot à l'intérieur du salon, ils ont déchiré une moquette. Enfin, 50 trucs qui ont été faits, qui au final, clairement, n'auraient pas dû être faits.
Est-ce que tu vois un apaisement supplémentaire chez les héritiers, chez les gens qui sont riches de génération en génération ?
Non, parce qu'ils sont comme moi. Le monde avance très très vite. On crée des besoins toutes les 15 secondes à travers des objets connectés, à travers des besoins, à travers tout ça. Bah, au final, ces gens-là, ils ont besoin de l'avoir tout de suite. Ils veulent, là, l'iPhone 15 n'est même pas encore sorti. On m'a envoyé 10 textos pour l'avoir en avance. Il faut que je parle à mes fournisseurs, à mes contacts pour obtenir ces téléphones. Et j'en ai eu 10 demandes. Il faut que je fournisse les 10 demandes.
Mais comment tu vas faire ça ?
J'ai les contacts. C'est mon métier.
Il va tomber du camion ?
Non. C'est Apple qui fournit. Mais simplement, moi, j'ai un contact directement avec l'usine Apple qui est en Hollande. Et ils me font une facture, mais pour un lot de téléphones que je vais fournir à mes clients. Et ils les auront avant la sortie.
C'est un métier de loulou quand même.
C'est un métier de contact. Il faut avoir des contacts dans tout. Dans tout. Je crois que dans mon téléphone, je dois avoir un peu plus de 9000 contacts à travers le monde qui sont capables de me fournir le service dont j'ai besoin. Donc c'est hyper important.
T'es entouré en permanence de très riches. Est-ce qu'il y en a qui te font envie? Est-ce qu'il y en a qui te font horreur, qui te dégoûtent?
Non, j'ai aucune jalousie, que ce soit en amour ou en travail ou en argent. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais. Je sais que si je me sortais un peu plus les doigts, je pourrais arriver à faire plus. Mais je suis aussi un gros paresseux. C'est-à-dire que je lance mes structures.
T'as pas l'air quand même.
Ah mais je lance mes structures, je mets des directeurs d'opération et après je joue à l'Xbox dans la journée. Hein. Donc je joue au tennis et à l'Xbox.
En gardant ton téléphone toujours allumé, ouais.
J'adore mon métier, mais mon rêve, c'est d'avoir mon groupe hôtelier. Donc, je suis en train de faire tout pour.
C'est-à-dire ?
Je suis en train d'acheter un château dans le sud de la France pour le transformer en hôtel 4 étoiles. Pareil, à côté de Lyon, on est en train de voir aussi pour un autre. On commence avec deux, avec des associés. Et être à la tête d'une petite dizaine d'hôtels, ce serait mon délire. J'aime le concept de faire un château que l'extérieur n'aille pas du tout avec l'intérieur. Alors, on les dénature pas trop. Je dis pas trop parce qu'on les dénature un peu quand même. On n'est pas là pour refaire de l'histoire à l'intérieur. Mais voilà, on garde l'histoire de chaque château au goût du jour.
Et pourquoi pas 5 étoiles? Toi qui es habitué à offrir un service 5 étoiles.
Pour être 5 étoiles, il faut répondre à énormément de critères. Mais les châteaux qu'il y a en France, il y en a plein qui n'ont pas la capacité d'accueil, l'espace de chambre ou les choses comme ça, on n'y arriverait pas.
Et dans 10 ans, tu te vois où?
Dans 10 ans... Main dans la main avec mon fils en train de lui expliquer comment il faut faire pour reprendre le business.
T'as envie de ça?
Mon père fonctionne pas comme ça. Mon père veut pas qu'on fasse partie de son business, il fait des millions, mais il veut pas qu'on soit dedans. Je pourrais être demain dans la merde financière que jamais il m'embaucherait. Il estime que son travail est fait pour que le jour où il sera plus là, mes sœurs et moi, et les petits-enfants, on puisse vivre correctement et aisément sans se poser de questions. Mais c'est pas pour avoir la vie que lui, il a. Il a sacrifié sa famille, il a été marié 3 fois, il voyage tout le temps. C'est il m'a dit la dernière fois, 4e plus gros utilisateur des Emirates au monde. Mais par contre, voilà. Lui, il a ce système-là de dire, je veux pas que vous ayez la vie que j'ai eue. Alors que moi, mon fils, j'adorerais qu'il ait cette vie-là, à 1000 à l'heure, à rencontrer des gens, à voyager, à dormir dans les beaux hôtels, des choses comme ça. Quand il est avec moi ou avec sa mère, il veut savoir combien il a sur ses comptes. C'est son délire. Je mets de l'argent de côté sur un compte pour lui, je mets de l'argent de côté sur un compte pour sa bar mitzvah ou des choses comme ça, et de manière à tout ça. Et donc ça l'amuse de voir qu'il a des gros chiffres et que voilà, sa mère et lui s'amusent à faire des additions.
Sa mère est comme ça aussi?
Ah, sa mère, elle est pire.
D'accord.
Tu devrais la prendre en interview parce qu'elle est vraiment... elle est formatrice dans le luxe. Elle a sa boîte de formation. Elle travaille que avec des grandes marques de luxe. C'est quelqu'un qui est... ostentatoire dans ses marques et tout ça, mais elle s'en cache pas du tout. Et donc voilà.
Et vous êtes séparés?
On est séparés.
Et ça se passe bien?
Super bien. On est même quasiment meilleurs amis. Ouais. On s'entend très 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 bien. On s'est au téléphone toujours.
Tu donnes une pension alimentaire?
Je suis obligé.
Tes fréquentations aujourd'hui, c'est qui? Tes amis? Tes vrais amis?
C'est l'inverse de ça. C'est-à-dire que mon meilleur ami, qui est mon beau-frère, il est artisan d'horreur. J'ai un autre ami qui est photographe. J'ai un pote à moi qui est livreur, tout ça. Ça me permet de garder les pieds sur terre. J'ai eu une période où j'avais que des amis vraiment très fortunés qui me faisaient dépenser peut-être 30 ou 40 000 euros en une soirée. Et chacun notre tour, on faisait une soirée. Tiens, ce soir, c'est toi, ce soir, c'est moi. Enfin, j'ai une addition dans mon téléphone que j'ai photographiée parce qu'un jour, elle me sert à me rappeler. On est allé manger dans un restaurant qui s'appelle Nusret, donc très connu. Il fait une côte de bœuf à l'or, avec de la feuille d'or par-dessus. À Dubaï, c'est dans les 3 000 euros à peu près, la côte de bœuf. Mais c'est surtout ce qu'on a bu à côté parce qu'on a voulu se faire plaisir à se faire des dégustations des meilleurs vins de la cave. L'addition totale, il y en a eu pour un peu plus de 140 000 euros.
140 000 euros?
Ouais.
Et c'est toi qui as invité?
Non, sur ce coup-là, c'était pas moi. 40 000 euros, on était 5 à table. Et on a descendu 2 bouteilles de Petrus, une Angélus. Et on s'est fait vraiment plaisir pendant ce repas-là. Mais sans avoir la dégustation qu'un œnologue ou un sommelier pourrait avoir. On a bu ça comme du petit lait. On était complètement pistache, donc voilà.
Et le lendemain, tu te dis quoi quand tu te réveilles?
Moi, je sais pas. Donc, je me suis réveillé en me disant j'ai bien mangé. Mais au moment où tu vas aux toilettes, tu te dis ça fait beaucoup qui tombe. Mais par contre, celui qui a payé l'addition, le lendemain, je pense que quand il se réveille, alors lui personnellement, il en a rien à foutre. Mais si j'avais payé l'addition, je l'aurais mal vécu. Ouais.
Voilà, vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velly et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velly, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens, et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thune. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.